aujourd'hui, on fait des bâtiments de, exemple comme le 700, c'est un bâtiment de plus de 110 millions. Fait que c'est sûr que là, c'est encore plus dur d'aller chercher des créanciers. Sur le projet 700, il y a trois institutions financières qui se sont mis en pari passu pour faire le financement du projet. Fait que là, t'as plus un créancier, t'as trois créanciers à satisfaire.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 86e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. J'ai fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois. G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. J'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec un entrepreneur qui a littéralement tout appris par lui-même. Après avoir commencé sa carrière en affaires à 5 ans en vendant des chandails pendant des matchs sportifs et avoir ensuite fondé à seulement 14 ans une entreprise de tonte de pelouse qui a atteint plusieurs millions de chiffres d'affaires, mon invité du jour, Ray Courtemanche, s'est lancé dans l'immobilier. En étant le cerveau derrière des projets d'envergure comme la Cité Mirabel ou encore le parc aquatique Mirabel qui verra le jour en 2022, Ray nous raconte aujourd'hui l'évolution de sa carrière qui s'apparente clairement à un film américain. Il a d'ailleurs sorti un livre « Bâtisseur visionnaire » où il rentre en détail sur tout ce qu'il a vécu de sa naissance à la fondation de son empire immobilier. Sans plus attendre, ma discussion avec Ray Courtemanche. Ray Courtemanche, vous êtes président de la firme immobilière Investissement Ray Junior, une entreprise qui est derrière les projets d'immobilier La Cité Mirabel, Sky Blue Condo et plusieurs autres projets d'envergure. En plus de piloter une entreprise qui gère plus d'un demi-milliard en gestion immobilière, vous avez également été pilote de NASCAR, un de vos rêves d'enfant que vous visualisiez depuis très longtemps. Ray Courtemanche, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Ben merci à toi de l'invitation, ça fait vraiment plaisir.
Et Ray, vous avez commencé votre carrière d'entrepreneur assez jeune en vendant très tôt des services de coupe de pelouse. J'ai par la suite eu la chance de voir que vous avez laissé tomber l'école très rapidement pour vous concentrer à 100% sur vos projets d'affaires. Pouvez-vous me dire aujourd'hui qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la décision aussi rapidement de se concentrer uniquement à l'entrepreneuriat?
Ben, je suis tombé dans la vente très jeune. Mon père était pilote de stock car dans les années 75 à 80, puis comme je voulais faire du karting, il fallait des sous. Alors, je vendais des t-shirts à l'âge de 7 ans dans les estrades, puis avec l'argent que je faisais avec les t-shirts, ben, je partageais les recettes 50-50 avec mon père. Alors, l'argent que j'accumulais, ben je pouvais me payer des heures de location de karting. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat avec une passion qui était de vouloir courser. Alors, tout jeune, j'ai fait de la promotion dans les estrades. Je criais t-shirt à vendre. J'avais une communication déjà à cet âge-là avec les gens. Fait que ça m'a dégainé rapidement. Alors, je suis tombé dans la vente très, très jeune. Puis, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à offrir aux voisins la coupe de gazon, puis l'hiver, j'offrais le service de déneigement. Fait qu'encore une fois, fallait que je fasse du porte-à-porte. Fait qu'il faut pas être gêné de cogner aux portes et de sonner. Les gens ouvrent la porte. Souvent, on se fait refuser. Alors, faut sonner des fois à 30, 40, 50 portes avant d'avoir un oui. Fait que même s'il fallait que je sonne et je cogne à une centaine de portes à l'âge de 14 ans, je le faisais. Mais quand un client me disait oui, ben je m'arrangeais pour qu'il m'adopte puis qu'à chaque fois je passe devant sa porte, mais qu'il me dise oui encore. Fait que l'important, c'était de toujours être respectueux avec le client, donner un bon service. Alors, j'accumulais ces clients-là qui étaient satisfaits. Puis, à un moment donné, je me suis ramassé à plus de 600 clients. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai lâché l'école pour m'occuper de ma clientèle.
Ben c'est ça, à un certain point, à un moment donné, ça donne une bonne raison. Là. Quand on voit qu'il y a une base de clientèle, il y a certains revenus, on a un petit peu plus d'arguments pour aller se concentrer à 100% sur un projet comme ça. Puis, je te pose une question, Ray. Moi aussi, bon, par le passé, comme souvent n'importe quel entrepreneur, on doit commencer par le fameux porte-à-porte ou les appels à froid. À quel point tu sens ça, que ça t'a forgé un petit peu en tant qu'entrepreneur, en tant que développeur, là, de faire ce porte-à-porte-là? Parce qu'à un certain point, c'est pas facile de se faire dire non continuellement.
Ben moi, je crois que, premièrement, ça nous dégêne. Deuxièmement, ça montre la difficulté d'aller chercher un nouveau client, puis l'importance de voir les efforts qu'on a à faire pour acquérir un nouveau client, mais ça fait qu'on veut respecter le client qu'on a réussi à avoir un oui, puis la personne qui comprend ça, mais elle va donner du bon service justement pour garder ces clients-là qui sont difficiles à aller chercher, puis à garder et à bien entretenir pour justement qu'un jour on ait un nom d'entreprise ou une réputation qui fait que tu n'as plus à faire du porte-à-porte. Fait que je crois que qu'on haït tellement ça de faire du porte-à-porte qu'il faut trouver la formule magique ou la solution pour ne plus n'avoir en faire. Mais ça reste à vie, je dirais que faut toujours faire de la sollicitation. Faire exemple aujourd'hui des podcasts pour pas que les gens nous oublient dans le placard. Fait qu'il faut toujours rayonner, être présent, participer à plusieurs émissions, à des conférences, à des associations, être invité partout pour justement toujours continuer à rayonner. Fait que c'est du porte-à-porte, mais à grand volume, je dirais.
Non, exactement. On doit commencer à quelque part, puis éventuellement, mais c'est peut-être davantage les gens qui viennent à nous parce qu'on a été capable de bâtir cette réputation-là, comme vous l'avez si bien fait d'ailleurs au cours des 30 dernières années. Maintenant, je pense que vous aviez fondé votre firme en immobilier en 1987. Donc, ça fait longtemps que vous faites ça. À un certain point, à un moment donné, c'est les gens qui viennent à vous. Donc, ça, c'est une bonne chose. J'aimerais revenir un petit peu à votre parcours. Donc, bon, tu le dis, on vend des t-shirts dans les estrades. Par la suite, on est allé dans la tombe de pelouse. Je suis curieux, cette entreprise-là que tu as lancée à 14 ans, tu disais que tu étais rendu à 600 clients à un certain point. Est-ce que tu as eu à bâtir une équipe ou à un certain point, c'était encore toi qui faisais tout seul?
Ben, je te dirais que à 100 clients, il fallait que j'aie deux helpers, dans le fond, deux aides pour m'aider à répondre aux demandes. Fait qu'à 600 clients, c'est 100 clients par équipe de trois. Fait qu'on est rendu avec 6 équipes qui avaient chacun pick-up dans ce temps-là. Puis dans l'intérieur de la boîte de pick-up, il y avait 2 tondeuses, weed eater, souffleur à feuilles pour nettoyer le trottoir avant qu'on quitte les lieux. Puis aussi, mais les clients, quand on veut les garder, mais il faut donner un service hors pair. Fait que nous, on ramassait la pelouse qu'on venait de couper. Fait qu'on mettait ça dans des immenses sacs à poubelle robustes. Puis on emmenait ça dans un champ pour faire du compost. Fait que c'était déjà une grande équipe. Mais ces 600 clients-là, ce qui était important à comprendre, puis pourquoi que je suis devenu un des plus gros entrepreneurs en aménagement paysager au Québec, c'est que ces clients-là avaient une résidence. Mais oui, on faisait l'entretien, mais chaque client avait des travaux à faire exécuter à leur résidence. Fait que trottoir, agrandir les trottoirs, agrandir le patio, tondre la haie de cèdre, arracher un arbre, planter des nouveaux arbres, faire des murets. Après ça, ben, on prend de l'expérience. Là, les clients nous demandaient de faire leur stationnement en pavé uni. Après ça, refaire les escaliers en façade de la résidence, faire les murs de soutien des boîtes à fleurs. Fait que ces clients-là, de bien les entretenir, mais c'était une clientèle qu'à terme, on allait faire jusqu'à 3-4 millions de chiffres d'affaires par année à leur offrir les services supplémentaires ou complémentaires à l'entretien. Puis là, ben maintenant, on est venu tellement gros en tant qu'entrepreneur en aménagement paysager qu'en 91, j'ai acheté un terrain puis j'ai ouvert mon propre centre jardin pour nous auto-souffler nous-mêmes dans les arbres, dans les vivaces, les engrais, les plantes, les matériaux en vrac, la pierre concassée, la terre, la poussière de pierre, les, bio de proches de cèdre pour faire des clôtures puis des jardins d'eau. Fait qu'on s'auto-suffisait nous-mêmes, là.
Puis, je suis curieux, t'as appris tout ça par toi-même? Parce que là, bon, il y a des services complémentaires que la clientèle te demande, mais à un certain point, il faut que tu sois capable de les faire, ces services-là. Est-ce que cette expertise-là, tu l'as appris par toi-même? Est-ce que tu t'es entouré de gens qui, par le passé, avaient un certain bagage d'expérience avec ces services-là?
Mais au départ, quand que les gens d'entretien me demandaient des travaux de paysagement que j'avais aucune idée comment faire, ce que je faisais, c'est que je me rendais dans des centres jardins ou dans des dépositaires de pavés imbriqués, puis je leur disais que mon père, à sa maison, il voulait faire un trottoir en pavé uni ou un patio, puis qu'il m'avait demandé à moi de le faire. Fait que je leur demandais comment faire ou il me donnait des pamphlets. Fait que je lisais, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas Google qui nous donnait tous les secrets de la planète. Alors, j'apprenais dans des feuillets, des magazines, des revues, puis j'avais vraiment appris, comme on peut dire, sur le tas. À chaque demande que j'avais, je disais jamais non au client, puis là, ben je m'en allais voir un distributeur ou un fabricant pour apprendre comment faire les travaux. Puis ensuite, durant la soirée, j'appelais d'autres entrepreneurs en aménagement paysager, puis je leur disais, ah ben mon père voudrait... faire un trottoir de, mettons, 12 par 12, puis comment vous chargez pour faire ça. Fait que là, ils nous donnaient un prix. Fait que moi, je repartais avec ce prix-là avec les matériaux que j'avais été voir le distributeur. Puis là, ben je faisais un calcul scientifique, 1 plus 1 ou 10 moins 5. Fait que j'arrivais à voir comment que j'avais pour la main-d'œuvre qui me resterait après avoir acheté les matériaux. Fait que j'ai vraiment appris de cette façon-là et aussi comment déterminer ma liste de prix.
OK, intéressant. Fait qu'on se fait passer pour un client secret. On prend la source secrète par la suite puis on va appliquer le processus à nos clients existants. J'adore ça. Et bon, Ray, tu me dis en 91, tu as acheté un terrain, tout ça. Là, je fais des mathématiques, je regarde, je pense que tu es né début des années 70 ou littéralement en 1970. Donc, t'étais pas vieux là à ce moment-là pour acheter un terrain. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette entreprise-là, ultimement? Donc, tu l'as lancé à 14 ans, tu as atteint une certaine croissance, donc tu étais rendu avec plusieurs équipes, tu as acheté des terrains. Maintenant, tu es dans le domaine, bien entendu, de l'immobilier. On va en parler là plus tard de ça, mais il s'est passé quoi à la fin avec cette entreprise-là?
Ben dans le fond, quand tu me parlais de terrain, quand j'ai acheté le terrain pour faire le centre jardin, j'avais 21 ans en 91, puis j'avais payé 675 000. Puis la banque voulait pas me financer le terrain, fait que le propriétaire du terrain pour m'aider parce qu'il me connaissait par réputation, fait qu'encore une fois le côté réputationnel il est très important. Le vendeur qui voulait me vendre le terrain, ben il m'avait offert de me faire une balance de vente, fait que c'est ce qui m'a aidé à me faire accepter à la Caisse des Jardins justement pour avoir mon premier financement hypothécaire pour acheter le terrain que je voulais faire le centre jardin. Fait qu'encore une fois, mon côté réputationnel m'a aidé. Alors, la Caisse des Jardins, avec la balance de vente du vendeur et mon père m'avait prêté 50 000 plus le 50 000 que j'avais accumulé, mais c'est ce qui m'a permis d'acquérir mon premier terrain où est-ce que j'ai fait ce centre jardin-là. Puis, j'ai opéré à cet endroit-là presque pendant 10 ans. Puis, à un moment donné, ben les gens qui habitaient aux alentours, ben on pourrait dire que tout le résidentiel s'est approché du centre jardin. Puis là, les gens se plaignaient du bruit qu'on partait tôt le matin avec les camions. J'étais rendu avec 65 machines sur la route, des 12 roues, des pelles, des loaders, des camions dompeurs, des plateforme pour transporter l'équipement. Fait que là, les gens se plaignaient dans la région, alors la ville m'a fortement recommandé de quitter les lieux puis de faire un commerce de détail puis de machinerie que j'avais dans un autre endroit. Fait que là, j'ai acheté un terrain dans le parc industriel à Laval sur Michelin. Et quand j'ai déménagé à cet endroit-là, mais le terrain où est-ce que j'avais mon centre jardin, fallu que je trouve un moyen de le rentabiliser. Puis c'est là que j'ai bâti mon premier bâtiment commercial, bureau et centre d'affaires en bois lamellé collé. Fait que ça, c'était en 2005, parce que ça a pris plusieurs années avant que la ville approuve mon projet puis elle me donne un zonage de bâtiment à deux étages pour faire du bureau. Alors, c'est là que j'ai fermé le centre jardin, fait que j'ai arrêté d'offrir le service de vente d'arbres puis de vivaces. Puis je me suis concentré seulement sur le transport en vrac, l'excavation, le paysagement. Puis, vu que j'avais bâti mon bâtiment industriel pour recevoir mes camions puis faire la maintenance puis l'entretien de ma machinerie lourde, et aussi que j'avais bâti le premier bâtiment à bureau, mais c'est là que j'ai appris vraiment à faire la construction. Puis, c'est là aussi que j'ai découvert que c'était plus rentable de faire de l'immobilier que de faire de l'excavation et du paysagement. Un peu comme la loi de Pareto, dans le fond, c'est que 20 % de mes revenus arrivaient de mon paysagement, mais pour 80 % de l'énergie que je mettais dans le domaine de l'aménagement paysager, du transport en vrac puis du déneigement. Puis 20 % de mon travail, qui était l'immobilier, mais me rapportait 80 % de mon rendement financier. Fait que là, j'ai pris une décision en 2015 et j'ai cessé d'offrir les services de paysagement, de pavé imbriqué et de déneigement pour concentrer 100 % de mon temps dans le développement immobilier puis la construction de maisons, de bâtiments commerciaux, de tours à bureaux puis de bâtiments industriels.
Puis ça allait vite, hein. On va en parler un petit peu, je l'ai dit en introduction dans le podcast. Donc, tu es derrière le projet de la Cité Mirabel, un projet qui est gigantesque, qui chiffre, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est à près d'un milliard de dollars tout l'investissement qui est fait autour de ce projet-là. Parle-moi un petit peu, ça a été quoi les premiers projets que tu as mis de l'avant avec ton équipe? Qu'est-ce que tu t'es attaqué en premier? Est-ce que ça a davantage été dans l'industriel? Est-ce que ça a été davantage au niveau du particulier? Où est-ce que tu as mis tes efforts dès le départ?
Ben, comme je suis une personne très excentrique puis fonceur, j'ai commencé par un bâtiment industriel qui était pour mes propres besoins, dans le fond, sur Michelin. Puis, pour rentabiliser mon terrain du centre jardin, j'ai fait la première tour à bureau. Puis là, ben, ensuite, j'ai commencé à faire des maisons à Blainville dans le domaine des ruisseaux. Ensuite, j'ai fait des maisons de 800 000, 1 million, 1 million et demi dans Fontainebleau. J'ai fait des maisons dans le domaine de Château de Brisac à Lorraine. Fait que c'est là que j'ai commencé vraiment à me lancer dans la construction. Mais je faisais de tout, là, des maisons de 500 000, 1 million et demi, 2 millions. Je faisais du bâtiment à bureau et du bâtiment industriel, mais tout simultanément, là, je me suis pas lancé dans un créneau en particulier. Je me suis dit que je suis mieux de tout faire, dans le fond, puis s'il y a un creux dans l'industriel, mais ça sera des maisons qui vont se vendre. S'il y a un creux dans le bureau, mais ça sera de l'inverse, l'industriel ou des maisons, et vice-versa. Fait que j'étais pas vraiment enligné à aller justement dans un créneau, puis que s'il y avait une baisse dans ce secteur-là, mais que j'aurais pas de revenus justement pour continuer à faire rouler l'entreprise. Un peu comme quand j'étais dans la pelouse, ben, je me suis jamais arrêté à dire, ben, je vais couper du gazon toute ma vie. Chaque fois qu'un client me demandait un service, je disais tout le temps oui, même si je savais pas comment le faire. Et dans le domaine de la construction, ben, je me suis lancé à pieds joints dans tous les secteurs de la construction, puis maintenant, aujourd'hui, on bâtit des tours de 15 étages en béton, on bâtit des tours à bureaux de 5 étages en bois lamellé collé, on fait des bâtiments industriels de 50, 60, 80 000 pieds carrés, on fait des bâtiments en béton aussi de 250 portes, fait qu'on est vraiment dans tous les secteurs de la construction en ce moment.
C'est intéressant. Tu as mentionné un petit peu plus tôt, Ray, le volet de la réputation. Donc, on le sait en affaires, notre nom va nous suivre toute notre vie. Donc, on est mieux d'en prendre soin dès le départ pour être certain que si à un certain point, à un moment donné, on a à travailler avec des connaissances existantes, on a été capable de garder un très, très bon nom. Dans le domaine où est-ce que tu es avec les projets d'envergure, tu le disais, tu es quelqu'un d'excentrique, donc tu aimes les grands projets, tu aimes les trucs assez ambitieux. À un certain point, à un moment donné, tu as besoin de capital, tu as besoin d'aller chercher des partenaires qui vont vouloir rentrer dans un projet avec toi. À quel point, et je reviens un petit peu sur le point de la réputation, ça a été facile pour toi d'aller voir certains partenaires et de leur proposer un plus gros projet que tu avais en tête, une plus grande construction. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Parce que le volet du capital, aller chercher cet argent-là, t'en as besoin, puis c'est pas facile là, quand t'as pas un nom qui a énormément de connaissances dans l'industrie.
Mais je te dirais que même avec ma réputation, le financement, c'est un des secteurs d'activité qui gruge le plus d'énergie puis qui nuit le plus à mon développement avec toutes les idées que j'ai. Comme là, en ce moment, je suis en train de travailler un immense parc aquatique intérieur avec deux hôtels, avec du stationnement étagé à 4 étages, avec un étage souterrain de stationnement et avec un immense dôme en bois par-dessus le dernier étage des stationnements. Puis le financement, c'est toujours un obstacle, c'est toujours une barrière à la croissance. Même si j'ai une bonne réputation, que j'ai livré la marchandise, les critères des institutions financières sont tout le temps en croissance, dans le fond, des taux. Ils mettent tout le temps ça plus difficile, plus serré, parce qu'ils ont vécu des échecs, ils ont vécu des faillites avec d'autres entrepreneurs et d'autres projets. Fait que tout le côté financement est tout le temps de plus en plus difficile. Fait que c'est, je te dirais que dans un projet et même dans mon quotidien, ça gruge quasiment 30 % de mon énergie annuellement et journalièrement, pas tout le temps dans les mêmes périodes, mais c'est un des endroits qui est le plus difficile. Fait que surtout, si tu as une mauvaise réputation, ben ça devient probablement 90 % de ton temps. Fait qu'il te reste même plus de temps pour faire des projets. Mais c'est vraiment le secteur qui est le plus lourd et le plus difficile, c'est d'aller chercher du gros financement. Surtout, aujourd'hui, on fait des bâtiments de... Exemple comme le 700, c'est un bâtiment de plus de 110 millions. Fait que c'est sûr que là, c'est encore plus dur d'aller chercher des créanciers. Sur le projet 700, il y a 3 institutions financières qui se sont mis en pari passu pour faire le financement du projet. Fait que là, tu n'as plus un créancier, tu as 3 créanciers à satisfaire. Fait que le côté réputationnel, il est très important, mais aussi de... le côté solidité financière, fait que ça prend des états financiers audités de haute qualité, fait que c'est la partie la plus dure.
Ça a dû être une très bonne école pour toi, là. T'es de tout apprendre ça, de rencontrer ces institutions là. Est-ce que, puis je suis curieux, est-ce que c'est davantage, travailles-tu davantage avec les institutions qu'on connaît très bien, ou où il y a beaucoup d'investisseurs privés qui croient en tes projets puis qui vont venir déposer du capital?
Ben là, je te dirais que en ce moment, je roule simultanément près de 200 millions de dollars de bâtisses en ce moment qu'on est actuellement en train de construire. Puis on a de tout, on a du bancaire, on a du privé, on a du institutionnel, on a des banques de Toronto, on a des fonds, on a des banques privées, on a de tout là en ce moment parce que on a tellement de projets en marche que là, on n'a pas le choix de puiser partout.
Et puis c'est là que ce que tu as appris avec le porte-à-porte doit aider, hein? Donc, tu as appris à développer très jeune, puis c'est plus nécessairement du porte-à-porte comme à l'époque, mais là, maintenant, on va faire du porte-à-porte sur des centaines de millions de dollars, mais avec un peu plus d'expérience, on va dire ça comme ça.
Oui, puis de l'assurance, puis le fait que j'ai livré plein de projets qui étaient des inquiétudes énormes envers des gens qui ont fait des études de marché qui donnaient pas de succès au projet que je voulais entamer parce qu'ils trouvaient trop grand, trop avant-gardiste, trop gros, puis que j'ai emmené à terme ces projets-là haut la main, puis que maintenant, ils utilisent mes projets pour donner des statistiques ou bien des études de marché. Mais ça fait que le fait de livrer la marchandise sur des projets qui ont pas une bonne vision du futur, puis que je les amène à terme, puis que je les amène à un succès, mais ça l'emmène encore plus de crédibilité au projet comme le parc aquatique, justement, qui va être difficile, très difficile, mais qu'avec tout mon bagage, ben je vais trouver des gens qui vont y croire, puis qu'ils vont embarquer, puis que je vais emmener à terme le projet. Puis je le sais que ça sera pas facile, mais je suis tellement habitué de défoncer des murs de béton avec l'armature, puis ça fait que tu es endurci. C'est comme du porte-à-porte, comme tu disais. C'est quand tu deviens confortable puis tu as confiance en toi, mais il n'y a plus rien pour t'arrêter, dans le fond.
Au sens propre et au sens littéraire que tu défonces des murs. C'est ça qui est fascinant ici. J'aimerais revenir à un point. Bon, on l'a dit un petit peu plus tôt, tu n'as pas été très longtemps à l'école. Beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs, c'est le même scénario souvent qui va se produire. On apprend davantage sur le terrain. Et tu disais dans un entretien récemment que j'ai écouté, que j'ai trouvé fascinant, tu disais que ton père, et corrige-moi si je me trompe dans ce que je vais dire, te disait, Ray, tu as deux oreilles, il faut que tu écoutes. Quand les gens te parlent, quand les entrepreneurs qui ont eu du succès t'expliquent comment ils s'y ont pris, quelles approches ils ont utilisées pour atteindre cette certaine croissance-là, pour combattre l'obstacle qu'il y avait devant eux, écoute-les parce que plus tard, ça va t'aider. Et tu disais dans cet entretien que tu avais l'air tellement intéressé, parce que je crois que tu l'étais vraiment, littéralement intéressé, que en les écoutant et en étant curieux, ben ces mêmes entrepreneurs-là partageaient de plus en plus et partageaient de plus en plus. Est-ce que c'est ça, la fin de la journée, ton école? Est-ce qu'elle était là, ton éducation?
Ben moi, je te dirais que mon éducation vient de quasiment 200% de mes deux oreilles. Parce que justement, quand je coupais du gazon à l'âge de 14 ans, les gens qui se payaient quelqu'un pour faire leur pelot, c'était des gens qui étaient soit aisés financièrement ou qui avaient des entreprises puis qui aimaient mieux consacrer leur temps dans leur entreprise qu'en arrière de leur tondeuse puis payer moi qui leur coûtait pas cher. Puis là, ben comme je m'intéressais à eux puis qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur entreprise puis pourquoi qu'ils avaient du succès puis pourquoi qu'ils avaient une aussi belle maison, mais ils me trouvaient intéressant de m'intéresser à eux. Alors, ces gens-là s'ouvraient à moi puis ils me partageaient leurs bons coups, leurs mauvais coups, leurs coups qu'ils auraient pu éviter. Alors, j'écoutais autant leur échec dans certains secteurs. Puis souvent, ça m'a aidé encore plus d'écouter leur échec parce que d'écouter un échec te permet d'éviter des fois 3 ans de travail que tu te consacres à bâtir quelque chose qui t'a amené du succès puis qu'à un moment donné, tu t'en vas dans une mauvaise direction qui t'emmène à un échec qui te fait manger trois ans de revenus et de cash flow que tu t'aurais pu éviter si tu aurais eu la chance d'écouter une personne que justement qui a te conté un échec, puis que toi, tes deux oreilles t'ont permis d'éviter cet échec-là que tu n'as pas fait. Alors oui, c'est important d'écouter puis demander aux gens qui vous expliquent leur pire échec parce qu'ils vont vous faire sauver 3 ans, puis même des fois 5 ans ou 10 ans d'efforts que vous allez avoir consacrés pour bâtir un gros cash flow qui a été mangé par une simple stupidité que vous auriez pu éviter en écoutant quelqu'un.
Ben souvent, ce qui est fascinant, c'est de s'entourer de gens qui sont à l'endroit que tu étais il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 10 ans de ça. Donc, ils sont capables de te dire un petit peu ce qui va se dérouler au cours des prochaines années devant toi. Puis, je suis curieux, aujourd'hui, avec beaucoup plus d'expérience, avec des projets d'envergure, avec plusieurs organisations qui ont eu sensiblement du succès, c'est qui va te donner des conseils? Est-ce que tu as encore des mentors autour de toi que tu vas aller chercher de l'information sur une fréquence, disons, hebdomadaire, mensuelle?
Ben maintenant, je te dirais que j'ai dépassé des grandes limites. Puis en tant qu'entrepreneur, je suis rendu à un niveau qu'il n'y a plus grand monde qui a fait des choses bien plus grandes que moi. Alors, c'est très difficile pour moi d'aller chercher de l'expertise directe en face à face puis d'ouvrir mes deux oreilles. Fait que là, mon père me dit aussi que j'avais deux yeux. Alors, je fais énormément de recherches sur les réseaux sociaux et je lis énormément sur plein de sujets. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, où est-ce que je réussis à aller chercher, dans le fond, de l'information, c'est beaucoup en faisant des recherches sur Google. Fait que là, c'est mes deux yeux qui m'aident à éviter des trous ou des gouffres. Fait que je fais énormément de recherches sur des sujets. Alors maintenant, fait que c'est là que je continue à m'éduquer. Dans le fond, je vais lire sur des stratégies qu'Elon Musk utilise ou fait comme stratégie, que ce soit autant en ces choses qui sont hyper, c'est incroyable en tant que projet ou que d'autres entrepreneurs font des projets qui sont incroyables. Fait que je fais beaucoup de lectures. Fait que c'est comme ça maintenant que je vais me chercher des stratégies ou des idées c'est en faisant des recherches.
Ben, tu me facilites la transition maintenant parce que toi-même, t'as sorti un livre il y a quelques mois de ça. Et là, c'est ça qui est intéressant un petit peu dans cette dynamique parce que tu le disais dans d'autres entretiens, tu viens de le dire également, tu es quelqu'un qui a les oreilles grandes ouvertes, donc tu écoutes beaucoup ce que les autres t'ont dit. Mais à un certain point, c'est le temps de redonner. C'est le temps de redonner. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu as fait avec le livre que tu as sorti il y a quelques mois de ça. Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui se retrouve dans ce livre-là? Et également, quelles ont été les raisons pourquoi tu t'es dit, là, tu sais quoi, j'arrive à un moment dans ma carrière que c'est le temps d'écrire un livre.
Mais je te dirais que ça a commencé au début du confinement avec le coronavirus qu'on a vécu l'année passée. C'est que je suis très actif sur les réseaux sociaux avec mes projets parce que je veux faire connaître mes projets. Puis comme je disais souvent, la réputation est importante. Fait que comme je partage des choses tout le temps positives sur les réseaux sociaux, je crée confiance puis ça fait que il y a énormément de personnes qui s'appuient sur mes idées et mes projets pour justement se ressourcer comme moi je faisais avec d'autres entrepreneurs quand que j'étais plus jeune puis je coupais du gazon. Puis là, ben, quand que le corona a commencé, ben même moi, ça m'est arrivé. Là, j'ai un breaker qui a sauté, puis pendant une semaine de temps, je te dirais que j'ai été down quand ils ont fermé le chantier. Ça m'avait jamais arrivé de ma vie de me faire arrêter de travailler. Alors, je trouvais ça difficile. Puis, il y avait tellement de monde qui m'écrivait soit par texto ou qui m'appelait ou je recevais des messages sur LinkedIn à Quantité Industrielle ou sur Messenger, sur Facebook. Puis, comme je pouvais pas répondre à tout le monde ou de faire du coaching, parce que j'ai pas le temps avec tous mes projets, fait que je me disais, tant qu'à donner du temps à une personne, je trouvais ça égoïste d'aider seulement qu'une personne à partager mes idées puis mes façons de voir les choses ou de ma façon à moi-même d'agir. Fait que l'idée nous est venue avec dans le fond notre équipe à l'interne de marketing, puis comme j'avais un bon mentor qui est dans l'édition du livre, Michel Ferron, dans le fond, que on peut voir ici son entreprise, c'est Un Monde Différent, qui est un des plus grands éditeurs de livres, dans le fond, sur le leadership, l'entrepreneuriat. C'est lui qui a poussé le livre « Le secret » qu'on peut avoir lu d'une couple d'années qui a sorti. C'est un des livres à succès qui s'est vendu quasiment le plus dans le monde. Puis là, ben quand Michel me dit « ben on pourrait éditer ton livre », ben là, ça m'a encore plus motivé. Fait que là, ben, on s'est mis à écrire le livre. Fait qu'on a fait un brouillon. Après ça, un deuxième brouillon. On a peaufiné le livre avec Julie qui travaille avec Michel chez Un Monde Différent. Maxime Fortier à l'interne à mon bureau qui s'occupe du marketing. Fait que toutes les quatre ensemble, puis les garçons de Michel Ferron, on a tous travaillé sur le livre. Puis là, ben, il a sorti, comme tu dis, il n'y a pas longtemps. Puis ça a été quand même un succès, malgré qu'on n'a pas pu faire un lancement en direct. On n'a même pas fait de lancement en live. Dans le fond, on l'a juste poussé sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook. Puis on en a imprimé quand même une bonne quantité. Puis on voit qu'à date, il y a quand même beaucoup de lecteurs parce qu'on a reçu énormément de partages sur les réseaux sociaux avec les gens qui lisent le livre, soit dans leur cours, dans leur salon, étendu dans leur lit, sur le bord de leur piscine. Puis les gens ont des beaux mots à nous partager. On répond à pratiquement tout le monde du mieux qu'on peut. Alors, je crois que c'était la meilleure façon de partager tout ce que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur, les difficultés, que ce soit à aller chercher du financement, acheter de la machinerie, construire, se faire arrêter par la ville, notre centre jardin, trouver une idée comment rentabiliser le terrain du centre jardin. Fait que je partage tout ce que je peux avoir à partager et que j'ai vécu dans le livre en tant qu'entrepreneur, mais aussi le côté familial, les sacrifices qu'il faut faire, la séparation avec la mère de mes enfants. Fait que tout est dans le livre. Il n'y a pas vraiment de cachette parce que je partage pas juste des succès. Dans le fond, je partage aussi des difficultés, des échecs, la famille, comment que mes enfants vivent avec un père qui travaille tout le temps 80, 70, 90 heures semaine. Ma passion dans le sport, les sacrifices qu'il faut faire aussi pour avoir du succès en sport. Fait que tout est là, puis comment que j'ai réussi à me rendre dans le sport professionnel d'un homme que quand j'étais enfant, qui était Richard Petty, que je me suis ramassé à Bristol au Tennessee, qui est un des circuits les plus mythiques dans le NASCAR. Puis je suis tombé face à face avec Richard Petty, que j'ai partagé dans le fond, qui était mon idole quand j'étais enfant, puis qu'aujourd'hui j'étais debout en face de lui, puis que le monsieur il s'est ramassé avec les yeux pleins d'eau, tellement qu'il voyait que je partageais quelque chose, fait que le monsieur était ému. On a pris une photo ensemble, on l'a immortalisé, cet événement-là qui est pour moi un succès incroyable de m'avoir rendu à ce niveau-là. Fait que j'ai mis la photo dans le fond, dans le livre. Je parle aussi de cette histoire-là. Fait que, tu sais, on retrouve de tout le côté familial, les sacrifices d'un entrepreneur, l'énergie qu'il faut mettre, les efforts, refuser des sorties, des parties, des voyages qu'on peut faire avec des amis. Au lieu de faire ça, ben, je travaillais pour réussir les projets, les rêves que j'avais. Fait que tout est là dans le livre. Fait que si les gens ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un entrepreneur et les sacrifices, ben, tout est là dans le livre Le bâtisseur visionnaire.
D'ailleurs, on mettra un lien dans les notes de l'épisode. Puis c'est fascinant ce que tu dis. Puis je suis curieux. Là, tu l'as dit un petit peu plus tôt, tu arrives à un point dans ta carrière où, sans prétention, puis je pense que si tu fais bien de le dire, tu as atteint un certain niveau que s'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont atteint en tant qu'entrepreneur. C'est quoi les défis? C'est quoi la vision de Ray pour les 10 prochaines années? Parce que là, à un certain point, à un moment donné, quand tu atteins des objectifs, quand tu atteins peut-être des rêves que tu as, est-ce qu'on essaye encore d'accomplir d'autres projets? C'est quoi ta vision par rapport à tout ça?
Ben, je te dirais, pour mon côté de passion de la course automobile, qui m'apporte énormément de visibilité médiatique, que ce soit à TSN, à RDS, à TVA Sport, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, ben cette année, je retourne au Grand Prix de Trois-Rivières, qui est une des plus grosses courses en NASCAR au Canada, qui est télévisée en direct. Fait que c'est la course qui amène le plus de spectateurs, puis de visibilité médiatique. Fait que je vais être au Grand Prix de Trois-Rivières en 2021. Et ensuite, je vais faire le Grand Prix de Icare, qui est à Mirabel, sur les tamacs d'avion de l'ancien aéroport de Mirabel. Et je vais faire aussi en Ontario, au Canadian Tire Motorsport Park, à la fête du travail. Je vais faire une des plus grosses courses aussi qu'en Ontario. Fait que je reviens après une absence de 5 ans, même à l'âge de 51 ans, en NASCAR professionnel. Fait que je vais être sur les circuits cet été. Puis, ça, c'est mon côté passion, course et marketing. Et ensuite, un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est le parc aquatique. Parce que le parc aquatique, tu sais, j'ai fait des bâtiments de 15 étages en béton. J'ai fait le 700, qui est un bâtiment de 250 portes en une seule phase. J'ai fait des bâtiments industriels, le projet de la cité de Mirabel. Mais aujourd'hui, depuis mon jeune âge, une personne qui me passionne, qui est un peu ma vision, c'est de créer des choses qui sortent dehors de l'ordinaire, qui est Monsieur Walt Disney. Puis, j'ai toujours été passionné par les parcs d'attractions, les manèges, le côté familial, le côté que les gens se réunissent, qui ont du plaisir en famille. Fait que pour moi, de créer le plus gros parc aquatique intérieur au Canada sur la rive nord de Montréal, qui va être accessible en train, en métro avec le REM qui va avoir un croisement avec le train qui va se rendre à la sortie 31 de Mirabel. Les gens peuvent venir en vélo parce que on va avoir un parc aquatique à l'intérieur de la ville de Mirabel, Sainte-Thérèse, Boisbriand, Blainville. Fait que les gens peuvent se rendre en vélo, en jogging, parce que dans Cité Mirabel, on va avoir plus de 4000 portes avec le domaine Vernon en arrière, qui est tout près de la Cité de Mirabel. Fait que on va être un des parcs aquatiques au Québec qui va être accessible par tous les moyens de transport. Puis en même temps, ben les gens qui viennent de l'extérieur, de l'Europe, de l'Italie, des États-Unis, de partout en travers le monde, le Maroc, l'Afrique, quand ils viennent ici en touriste, ben ils vont faire un arrêt à Québec, dans le Vieux-Québec, ils vont visiter le Montréal, le Vieux-Port de Montréal, puis ensuite, ils prennent l'autoroute 15, puis ils s'en vont à Saint-Sauveur et Tremblant, mais ils n'arrêtent pas vraiment dans, mettons, Laval, Blainville, Mirabel, parce qu'on n'a pas vraiment un immense attrait touristique où est-ce qu'ils peuvent, en villégiature, passer 2-3 jours. Fait que c'est pour ça que le fait de faire un immense parc aquatique avec 2 hôtels qu'on va pouvoir héberger presque 400 familles, mais on va vraiment créer quelque chose qui va être reconnu internationalement. Fait que c'est là que je suis rendu. J'ai envie de me faire connaître à l'international. J'ai voyagé au Maroc. J'étais allé visiter des immenses projets dans une société qui appartient au roi du Maroc, CGI. J'ai rencontré le président là-bas. On a échangé des façons de faire la construction ici au Québec. Eux m'ont partagé des idées de la façon qu'eux construisent dans leur pays. J'étais allé en Afrique du Sud, j'étais allé visiter des projets là-bas aussi. Fait que j'aime beaucoup m'éduquer en voyageant, de rencontrer des gens importants qui développent des immenses projets. Puis là, c'est à mon tour à redonner à l'international en faisant le parc aquatique. Fait que c'est un grand défi. Il va y avoir des immenses barrières, il va y avoir des barrières côté urbanistique de les villes, gouvernementales, financiers. Alors, c'est des grands défis. Puis là, c'est là que je suis rendu.
Wow, fascinant. Félicitations pour tout ça. On va suivre ça de près. Puis, Rich, je terminerai avec des petites questions personnelles que je trouve toujours intéressantes. On a parlé de lecture plutôt que, t'as lancé ton livre. Toi, de ton côté, est-ce que tu es un lecteur? Est-ce que tu aimes les lectures d'affaires? Et si oui, quel livre a marqué un petit peu ton imaginaire dans les dernières années?
Mais je te dirais que des livres, j'en lis pas énormément parce que je trouve que pour moi, c'est très long. Fait que je préfère faire des recherches sur Google puis de cibler vraiment des sujets qui m'interpellent. Alors, exemple comme le parc aquatique, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé lire sur Disney, je suis allé voir qui a fait les parcs aquatiques de Disney. C'est comme ça que j'ai connu un des plus grands constructeurs de parcs aquatiques qui est ProSlide, qui est connu mondialement. Ils ont fait des parcs aquatiques à Dubaï, en France, en Italie. Ils en ont fait pour Disney, ils en ont fait pour Universal Studios. Alors, c'est de cette façon-là que je fais mes recherches. Fait que je vais plutôt cibler un sujet en particulier. C'est de cette façon-là que je vais m'éduquer sur un projet que je veux développer ou aller chercher de la connaissance supplémentaire. Fait que c'est de cette façon-là que je fais beaucoup de lecture.
C'est une bonne chose. Et si on continue un petit peu dans le volet média, est-ce que tu écoutes un peu des podcasts? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets dans tes routines?
Je te dirais que non, parce que je travaille presque 90 heures semaine. Fait que quand j'ai besoin d'informations, il faut qu'elle soit vraiment très précise, ciblée. Puis la façon la plus facile que j'ai, c'est d'aller sur Google.
C'est une bonne manière de faire. Puis, je t'amènerai dernière question, Ray. Tu travailles beaucoup. Donc, si on veut avoir du succès en travaillant beaucoup, souvent, il faut une certaine discipline. Faut suivre des routines. Et à chaque invité de Hypercroissance, je leur pose toujours la question, quelle routine vous avez avant, pendant et après le travail? Et 50% d'entre eux me disent qu'ils ont une routine spécifique et l'autre 50% me disent, ma routine change à tous les jours. Je serais curieux de savoir, toi, à quoi que ça ressemble.
Je te dirais qu'elle change à tous les jours parce que je vais par urgence parce que nos chantiers commencent presque à 6 heures le matin les surintendants et les chargés de projet arrivent dans leur roulotte de chantier. Maintenant, les projets sont tellement gros qu'on a des agents de prévention de la CNSST qui sont obligatoires sur nos chantiers. Fait que souvent, il y a des échanges entre nos surintendants et nos chargés de projet avec la sécurité sur les chantiers. Fait que ça commence très tôt. Fait que des fois, je suis obligé de me rendre directement sur les chantiers pour des réunions de chantier. Fait qu'à ce moment-là, ben, je peux pas avoir vraiment une routine. Fait que je te dirais, j'y vais par traitement d'urgence. Mais là, comme je vais recommencer à piloter cet été, ça fait un mois que je me lève le matin à 5h30, 6h moins quart, puis je fais 1 heure de cardio à tous les matins. Alors, je m'entraîne maintenant obligatoirement très tôt pour me libérer le plus vite possible pour ensuite aller traiter les urgences sur les chantiers. Et quand j'ai fait mes urgences de chantier après ça, ben je m'en vais au bureau, puis là, ben je vais répondre aux questions à tous mes départements de soumission, départements de chargés de projet pour regarder justement les plans. Ensuite, la comptabilité, s'assurer que tous les fournisseurs sont payés. Fait que c'est vraiment une routine de traitement d'urgence, je te dis.
Intéressant. Ben, en tout cas, tout ça, c'est assez exceptionnel, Ray. Je te félicite pour cette évolution-là, ces différentes entreprises-là dans lesquelles tu as été capable de naviguer à travers ta carrière en affaires. Donc, félicitations pour tout ça. Bon, j'imagine le meilleur endroit pour en apprendre un petit peu plus, ça serait le livre. Hein, si les gens aujourd'hui qui nous écoutent, là.
Oui, dans le fond, les gens qui veulent me connaître plus ou ils veulent savoir qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour me rendre ce que je suis aujourd'hui, ben dans le livre, je parle de ma naissance avec ma mère qui est partie quand j'étais tout jeune, que j'ai été élevé par les mécaniciens au garage. Fait que je parle vraiment de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Puis même, il y a une partie que je parle de comment j'ai vécu justement la pandémie avec le coronavirus, des locataires que j'avais dans des immenses bâtiments qui m'ont déclaré faillite pendant le confinement. Fait que tous les obstacles inimaginables sont là. Puis de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ça soit LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, puis de suivre nos projets, c'est la seule façon de voir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment. Fait que c'est la seule façon d'avoir des nouvelles. Puis je fais souvent des conférences. Fait que d'après moi, les conférences à grand volume de personnes vont sûrement recommencer. Fait que suivre les endroits où est-ce que je vais être invité en conférence. Alors, pas mal à ces endroits-là. Là.
Bon, ben merveilleux, Ray. Je te remercie profondément. Ça a été un entretien fascinant. Je suis certain que l'audience de Hypercroissance va apprécier beaucoup. Donc, je te remercie encore une fois. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que le 86e épisode de Hypercroissance vous aura plu en cette belle période estivale. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on suit un rythme hebdomadaire et c'est en grande partie grâce à vous qui à chaque semaine nous suggérez des noms d'invités pour le podcast. D'ailleurs, je vous invite à rentrer directement en contact avec moi et mon email est dans les notes de l'épisode. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.